Bienvenue dans ce module 8 de notre workshop de migration. Là, on va parler de pourquoi IE est un bon navigateur en entreprise grâce à ses possibilités d'administration centralisée. On vous rappelle justement qu'un navigateur, selon nous, pour qu'il soit bon pour l'entreprise, il doit être supporté par son éditeur. Ça, je pense que même si des fois on nous reproche, on supporte IE 6 jusqu'en 2014 avec le support de Windows XP. Donc c'est une très bonne chose pour le monde de l'entreprise, pour les grandes entreprises. Certains développeurs web n'aiment pas cette approche parce qu'on empêche facilement de tuer IE 6, mais Microsoft fait l'effort de supporter longtemps son navigateur.
Peut-être qu'on peut préciser ce qu'on entend par support longtemps. Donc déjà, le navigateur est sorti en 2001, on est aujourd'hui
support,
en 2011.
Supporter longtemps, il y a une première phase chez nous de support qui consiste à supporter, on va dire, les bugs fonctionnels, le comportement de crash du navigateur.
La sécurité également.
Et la sécurité, bien sûr. Et cette mise à jour de sécurité continue dans un deuxième cycle. C'est-à-dire qu'à un moment, on décide que le navigateur a suffisamment été maintenu et stabilisé globalement. Par contre, la sécurité reste un point extrêmement sensible et important, surtout pour les navigateurs. Hein. On rappelle que c'est la porte d'entrée principale des vecteurs de menaces. Et donc, du coup, IE 6 reste supporté aujourd'hui pour justement toute cette partie de mise à jour de sécurité avec les fameux bulletins de sécurité qui tombent fréquemment.
Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, vous avez fait le choix, mettons en 2001, 2002, de passer à Windows XP, de passer à IE 6. Eh bien, depuis déjà 10 ans quasiment, on vous le met à jour. Enfin, on vous propose des mises à jour, on vous propose des quantités de sécurité. Il y en a qui tombent dès qu'on on a une nouvelle vulnérabilité qui a été détectée, qui a été corrigée, le collectif est disponible, et qu'on va faire cette opération jusqu'en 2014, date à laquelle, malheureusement, ou heureusement pour certains, Windows XP, et donc IE 6, qui est un des modules de Windows XP, donc sera enfin de support. Et puis on passera sur autre chose.
Alors on verra qu'avec la concurrence, ce n'est pas forcément le cas, hein, puisqu'ils ont des approches plutôt grand public, donc une supportabilité sur plusieurs années, c'est pas du tout dans leurs objectifs aujourd'hui. Ouais. Donc pour nous, c'est un objectif majeur qu'Internet Explorer soit supporté en entreprise pendant plusieurs années, et surtout au niveau d'un point de vue de sécurité. On préfère en général avoir la même version d'Internet Explorer ou du navigateur sur l'ensemble de son parc machine, même s'il est hétérogène, si on garde des machines sous XP, Vista ou Windows 7. Aujourd'hui, on peut avoir un IE 8 qui est présent sur l'ensemble de ces machines. Au fur et à mesure, les machines vont migrer logiquement vers Vista ou Windows 7. Et là, on pourra avoir à nouveau l'IE 9 partout, quoi. Donc, c'est plus simple. Pour quelle raison? C'est quand on a le même navigateur partout. Mais en fait, c'est je teste sur une seule version et on n'a pas besoin de tester N versions de navigateur sur N versions de système d'exploitation.
On ne duplique pas les jeux de test unitaires, c'est plutôt intéressant.
À nouveau, ça demande des gens, ça coûte de l'argent et du temps. Pareil pour le support. Disposer d'outils afin de faciliter son paquet et son déploiement administration. Alors ça, c'est la grande force, je dirais, d'Internet Explorer, qui est quasiment historique, quasiment depuis les premières versions d'Internet Explorer.
Pour être précis, depuis la version 4, qui doit dater, si je ne m'abuse, de 98.
En général, il y a un collab sur ce genre de truc.
En 98, pour la petite histoire, j'avais dû passer la certification Internet Explorer Administration Kit version 4.
Je suis désolé pour toi, Stanislas.
C'est des choses qui arrivent.
Et pour terminer, une fois qu'on a déployé son navigateur, imaginons qu'on l'a déployé sur des grands comptes comme on l'a vu sur 100 000 machines et qu'on a oublié de configurer un petit truc ou qu'on a besoin de changer légèrement le comportement du navigateur.
Ou de le reconfigurer, par exemple. Vous changez complètement votre politique en termes de page d'accueil. Vous voulez changer vos proxys. Vous voulez renforcer la sécurité sur tel ou tel point?
Eh ben, j'ai pas envie de passer avec une petite clé USB ou sur l'ensemble des 100 000 machines ou de dire à mes 100 000 utilisateurs, mettez à jour votre navigateur de cette manière-là. J'aimerais bien pouvoir le piloter à distance. Donc pour nous, voici les qualités qui sont indispensables pour un navigateur d'entreprise. Il se trouve que c'est aussi les qualités d'Internet Explorer en entreprise.
C'est quand même bien fait.
Et donc, on va les décrire rapidement derrière.
Peut-être juste pour préciser l'histoire de la reconfiguration, au-delà de dire, je peux reconfigurer ma page d'accueil, mon proxy, en gros, tout paramètre dans Internet Explorer. Il y a au moins un cas qui est relativement intéressant pour toute entreprise. Et ça, j'espère que vous allez adhérer avec mon idée sur le sujet. C'est que, aujourd'hui, il peut arriver que des, en gros, quand il y a une vulnérabilité trouvée, on a deux options en termes de divulgation. Soit d'un côté, la divulgation dite responsable, auquel cas, la personne qui est le chercheur en sécurité qui a trouvé la vulnérabilité s'adresse auprès de l'éditeur, quel qu'il soit, dans notre cas, c'est Microsoft, et dit, écoutez, j'ai trouvé une vulnérabilité, je vous donne l'information pour que vous puissiez la corriger, et ensuite mettre à disposition le correctif avant que la vulnérabilité, son détail, soit, entre guillemets, connu par tout le monde. Donc d'un côté, la divulgation responsable. Donc quand c'est fait dans ce cas-là, donc Microsoft a le temps normalement de se retourner, de tester la vulnérabilité, d'en faire un correctif de sécurité, de le tester, et tester prend du temps, parce que nous, on fait des tests de non-régression sur des gros benches de machines, simplement parce que quand des points correctifs, il va toucher des millions de machines et qu'on ne peut pas se permettre de faire plus de dégâts avec le coefficient de sécurité que sans coefficient de sécurité. Donc vous comprendrez que ce n'est pas parce qu'on a trouvé une vulnérabilité à un instant T que deux heures après, on peut avoir le coefficient disponible sur Microsoft Update. Donc la première option, c'était la version divulgation responsable, dans laquelle, dans le bulletin de sécurité, on remercie le chercheur qui nous a fourni des informations. Deuxième cas, plus embêtant, c'est la divulgation non responsable, ce qu'on appelle le 0D exploit, où en fait, le chercheur de sécurité, plutôt que s'adresser à l'éditeur, va annoncer la terre entière sur Internet via différents médias qu'il a trouvé la faille dans, dans cet exemple ici, ce serait Internet Explorer, et qu'en gros, pour exploiter la faille, il faut faire ces opérations-là. Et là, du coup, on se retrouve avec ce qu'on appelle donc une fenêtre potentielle d'exploit qui va aller donc du jour de la divulgation jusqu'au jour où Microsoft mettra à disposition de ses clients un correctif en fait de sécurité bouchant cette faille, cette vulnérabilité. Et donc, durant ce temps qui peut prendre plusieurs jours, hein, parce que je vous expliquais la raison tout à l'heure, eh bien, globalement, tout personne, tout client, tout utilisateur d'Internet Explorer ou du navigateur X ou Y, on s'en moque à la limite, aura un problème potentiel de sécurité sur son poste. Donc, ce qui se passe en général, c'est que quand il y a un 0D exploit qui arrive, et que donc on se retrouve, en tout cas chez Microsoft ça marche comme ça, qu'on se retrouve devant le fait accompli, donc nos équipes de développeurs se mettent à l'arrache, ce qui est un terme technique pour dire qu'ils se dépêchent vite, voilà, je vais dire, donc vont se dépêcher de faire un correctif, mais vont devoir quand même passer du temps à tester les régressions ou non-régressions. Et en attendant, en fait, ce qui se passe sur les bulletins de sécurité, c'est qu'on essaie de fournir des solutions palliatives ou de contournement permettant de limiter le risque, voire de bloquer le risque en reconfigurant telle ou telle partie du navigateur ou du système d'exploitation. Et c'est là, en fait, qu'interviennent la notion de mise à jour de GPO qui sont vraiment intéressantes dans le cadre d'un navigateur.
Je me demandais pourquoi tu nous racontais toute cette belle histoire. C'était bon, on arrivait là.
C'était bien éminé. Bon, on va rentrer un peu dans le détail. Déjà, sur les chemins de migration vers IE8. Hein. Première option.
Je sais pas, moi, raconte-moi.
Donc, mise à jour du navigateur depuis une version antérieure. Tu es sur Windows XP ou Windows 2003, donc le pendant serveur. Tu peux migrer donc de IE6 vers IE8.
Ouais, je suis d'accord avec toi.
Si tu es sur IE7, donc IE7 sur Windows XP ou 2003 ou Vista ou Windows Server 2008, tu vas pouvoir faire ta migration d'IE7 vers IE8. Jusqu'ici, pas de souci. Autre cas dans lequel tu vas avoir un chemin de migration qui va t'amener quelque part à un moment ou à un autre à IE8, eh bien, c'est simplement la migration depuis Windows XP ou depuis Windows Vista, et donc quand tu vas passer à Windows 7, tu vas pouvoir, ou directement sur le... Enfin, quand tu vas passer à Windows 7, forcément, tu auras IE8. Dernière chose, la migration d'un serveur vers, donc d'un serveur qui est 2003 ou 2003 R2, ou un serveur 2008, et tu vas l'amener, en fait, vers Windows Server 2008 R2, qui est la dernière version, qui est le pendant serveur, entre guillemets, de Windows 7. Sans que je le précise, hein, la migration sur place d'un Windows 2003 R2 ou d'un 2008 32 bits ne se fait pas directement sur la même machine, simplement parce que 2008 R2 est en 64 bits. Voilà. Donc, mais dans tous les cas, Windows Server 2008 R2, pas nativement IE8. Donc, globalement, quelles que soient, on va dire, les applications à déployer, mais dans le cas ici, on parle du navigateur.
On a le même process que d'habitude.
C'est-à-dire qu'on va passer, un, par une étape de packaging, c'est-à-dire, en gros, prendre le logiciel ici, Internet Explorer 8, le packager et donc le personnaliser pour être prêt à être déployé.
D'accord.
Ensuite, le déployer au moyen de différents mécanismes que je vais citer juste après. Et puis, dernière étape, c'est une fois que le navigateur est déployé sur l'ensemble des postes, il faut le maintenir à jour. Je t'expliquais pourquoi, pour des raisons notamment de sécurité, mais ça peut être pour des raisons également simplement de correctifs fonctionnels.
Comportement. Ouais.
Et donc, de maintenir à jour en fait cette application, en l'occurrence ici ce navigateur, jusqu'à attendre le prochain packaging d'une nouvelle version du navigateur, peut-être un IE9 ou un IE10, si on garde un certain temps IE8. Et puis ensuite, on repart dans le cycle. Donc le cycle est toujours le même, il n'y a rien de nouveau là-dessus. En termes de personnalisation et de packaging, globalement, on a un outil qui s'appelle, on en a parlé tout à l'heure, sous la forme d'une petite blague, effectivement, l'IEAK, l'acronyme d'Internet Explorer Administration Kit, qui passe dans sa version 8 avec IE8, hein, ça colle bien, et qui existe donc depuis 1998, date à laquelle on avait sorti Internet Explorer 4. Intéressant, c'est que du point de vue de la personnalisation, reparamétrer en fait Internet Explorer est relativement simple via stratégie de groupe. En gros, tous les éléments d'Internet Explorer sont reparamétrés de manière centralisée. Ça a été prévu nativement. C'est prévu nativement en fait depuis Internet Explorer 4.
D'accord.
Donc, enfin, depuis Internet Explorer 5, autant pour moi, qui était natif à Windows 2000, date à laquelle on est arrivé avec les mécanismes en fait de stratégie de groupe.
C'est bien ce qui me semble, j'avais pas osé te couper. Mais...
Oui, mais j'ai vu que tu avais tiqué sur ce point-là. Je sais que tu es aussi incollable sur ce genre de petits détails. Donc aujourd'hui, on dispose environ entre. Alors là, on nous a mis 1300, c'est entre 1200 et 1300 selon les sources. On n'est jamais allé les compter, mais selon les différents documents, différentes
selon
équipes.
La police,
selon la police ou selon les manifestants, on a entre 1200 et 1300 paramètres qui sont utilisables pour tuner en fait de manière centralisé via stratégie de groupe Internet Explorer 8.
Tout ça pour dire qu'il y en a énormément.
Et tout ça pour dire qu'il y en a beaucoup en fait.
Il y a pas mal de boulot possible sur la personnalisation d'IE.
On peut tout faire sachant que ça ne sert à rien de tout tweaker, mais potentiellement on peut le faire. Le déploiement, globalement là on a toutes les solutions possibles imaginables. Ça peut être très simple, très de manière complètement manuelle via Microsoft Update ou Windows Update. On peut le faire par un serveur de déploiement de coactif tel que Windows Server Update Services, qui, je le rappelle, est une solution gratuite pour l'entreprise, qui permet d'avoir son propre Microsoft Update, mais sous la forme d'un serveur d'entreprise. L'objectif, clairement, étant de centraliser le déploiement des coactifs et d'éviter le téléchargement de tous les postes et donc de prendre de la bande passante.
Et de contrôler. Hein.
Quand on monte un peu dans la gamme des produits de télédistribution, d'inventaire, eh bien, on a les solutions SMS, donc ça, c'est les anciens produits, System Manager Server, ou maintenant SCCM 2007-2007R2 et plus dans le futur. On peut également déployer le produit simplement depuis un package d'installation dans un répertoire sur un portage réseau. C'est supra basique. Pour des postes qui seraient distribués géographiquement dans des pays avec peu de connectivité ou des bandes passantes relativement faibles ou beaucoup de latence, on peut également simplement envoyer la mise à jour sous la forme d'un CD ou d'un support amovible, une clé USB par exemple. On peut le faire sous la forme d'un lien Internet, avec une page web sur un site sur Internet. On peut le déployer par les stratégies de groupe Active Directory. Donc en gros, si vous avez un package, un .msi, eh bien on peut directement déployer sans aucun outil supplémentaire que l'Active Directory l'application sur les postes. La différence par rapport à un outil télédistribution, c'est que là, on n'a pas de rapport en termes de remontée d'informations, en termes de savoir si l'installation s'est bien faite ou pas. Donc c'est pas forcément, ça peut être usage dans certains cas, mais en général, on ne conseille pas. Voilà. Et puis globalement, toute solution de télédistribution, là j'ai été très très Microsoft dans les premières approches. Basiquement, si vous avez un outil de télédistribution qui supporte des paquets d'installation,
soyez pour vous de l'utiliser. Ouais. D'accord.
Exactement. Pour la partie mise à jour, là c'est les mêmes outils, hein, Microsoft Update, Windows Update, le WSUS ou les systèmes de télédistribution en version chez Microsoft, System Configuration Manager. Donc l'IUAK, vous avez compris, permet en gros de contrôler les versions dans l'organisation, de distribuer et de gérer de manière centralisée un petit peu les installations du navigateur. Donc en gros, vous allez créer un package. Alors, à l'origine de l'IUAK, en fait, ça a été créé pourquoi ? Ça a été créé dans un premier temps pour aider en fait les fournisseurs d'accès Internet à la belle époque de fournir leur kit de connexion Internet avec un navigateur.
Donc, et WANADOO, AOL, Club Internet. De
exactement, donc c'était la belle époque où effectivement, quand on avait le kit sous la forme de quelques disquettes ou voire d'un CD-ROM après. On arrivait, Madame Michu posait le CD-ROM, elle cliquait next, ça lui mettait le navigateur, ça lui configurait les barres immondes, je plaisante, mais des barres associées à tel ou tel fournisseur, ça reconfigurait des favoris, ça configurait le modem et le kit de connexion. Donc voilà, c'était à l'origine fait pour ça. Ensuite, ça a été juste modifié pour pouvoir être également utilisé par les entreprises, pour pouvoir déployer des packages d'installation personnalisés à l'entreprise. Là encore, ça peut être intéressant de déployer un navigateur avec la liste des favoris correspondant aux sites intranet les plus utilisés, les applications communes, etc. etc. Je crois que d'ailleurs, je viens de tout citer ce que je venais d'expliquer. Donc, je ne vous ai pas fait toutes les captures d'écran, je vous ai juste fait la première, j'ai été un peu feignant. On vous a tout détaillé pas à pas sur le blog, sous la forme d'articles en fait, qui vous reprennent toutes les captures d'écran en vous expliquant les différentes étapes. Mais globalement, le kit de connexion, c'est un ensemble en fait, de fenêtres comme celle-ci, dans lequel vous allez paramétrer les différents éléments du navigateur, quelle est la page d'accueil, quels sont les favoris, quels sont les plugins éventuellement installés. Si vous voulez directement packager votre navigateur Internet Explorer avec une version Flash ou Silverlight, vous pouvez le faire. C'est plutôt, à mon avis, même une bonne idée. Et puis ensuite, vous avez un package tout fait qui est prêt à être diffusé.
Très bien, ça conclut ce module lié un petit peu aux capacités de management d'IE de manière centralisée ou de préparation au déploiement.
Dans l'entreprise.
Maintenant, reste à voir comment déployer ce fameux Internet Explorer, et c'est l'objet du module suivant, le module 9.